France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
C'est un phénomène de cinéma, il n'y a pas à dire. En 14 ans et 4 films, Les Tuches ont attiré 14 millions de spectateurs, sans compter les passages télé. Un cinquième opus sort la semaine prochaine et son réalisateur et acteur phare, Jean-Paul Rouve, sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, on critique et on aime ça. Aujourd'hui, deux expositions, Suzanne Valadon au Centre Pompidou et le Trompe-l'œil de 1520 à nos jours au musée Marmottan Monet à Paris. Voilà pour le programme des midis. Bonjour à toutes et à tous. Et pour débattre autour de la table, Corinne Rondeau, maître de conférence en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art. Bonjour.
Bonjour Marie.
Sarah Hilar-Meyer, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
L'agnosienne numéro 1 d'Éric Satie, qui fut le modèle d'un des premiers tableaux de Suzanne Valadon et son amant même, quelque temps. Mais c'est par ses dessins qu'elle a commencé à se faire remarquer, des dessins méchants et souples, selon Edgar Degas. On peut en voir beaucoup dans la monographie qui lui est consacrée au Centre Pompidou, la première depuis 1967. Suzanne Valadon, née en 1865 et morte en 1938, a par la suite connu le succès avec ses peintures et surtout ses portraits et ses nus féminins. C'est pourtant une femme tout habillée qui reste le plus célèbre de ses tableaux, la chambre bleue, où une femme plutôt carrée fume au lit avec une nonchalance assez butée. L'exposition retrace l'imposant réseau amical et artistique de Valadon et son positionnement en dehors des courants émergents de l'époque. On commence donc par un avis rapide. C'est à vous Corinne Rondeau.
Mais voilà une exposition tout à fait anachronique au Centre Pompidou, puisque je l'aurais imaginé davantage au Musée d'Orsay, mais tout à fait intéressant dans la mesure où je pense que cette peintre a fermé la porte de la modernité impressionniste.
Ah. Sarah Hilar-Meyer.
Moi c'est une exposition que j'étais contente de voir parce que finalement je connaissais assez peu Suzanne Valadon. Après je trouve que c'est une exposition qui est un peu répétitive sur le plan des son organisation thématique et aussi sur le plan des œuvres qui sont un peu toujours les mêmes, mais je crois que ça tient à Suzanne Valadon parce qu'en fait ce qu'on voit, ce qu'elle élabore dès les années 1900, en fait une facture qu'elle va ensuite répéter tout au long de sa carrière sans qu'il y ait de changement ou de rupture notable. Donc c'est un style, je dis ça rapidement, mais de synthèse entre des courants qui lui sont contemporains et des courants qui la précèdent. Et dont on peut avoir, je trouve, un peu de mal à saisir justement la modernité qui lui est propre, si on n'a pas peut-être connaissance de l'histoire de l'art, parce que peut-être que les commissaires s'attachent un peu trop à sa vie et pas suffisamment à son travail en tant que tel.
Alors Corinne Rondeau, vous parliez, elle a fermé la porte de la modernité impressionniste, c'est ça?
Oui, on voit très bien dans cette exposition, bon, à Pompidou je dis anachronique, parce que à la période où elle développe, c'est les avant-gardes, enfin c'est, on va dire que en contrepoint c'est le cubisme, on va dire, et donc là on a quelque chose qui est très figuratif, mais c'est surtout qu'elle est à la fin des années 1860 et qu'elle est formée quand même par ce qui va créer la modernité entre, d'une certaine manière, ceux qui sont un peu des pompiers et ceux qui vont créer la modernité, Manet, Courbet, Renoir, etc. Degas, vous citiez, évidemment. Donc, en fait, ce qui fait la fondation, c'est ce regard figuratif. Et puis, c'est aussi ne jamais oublier que cette femme commence par être un modèle très jeune. Et que cette femme regarde des peintres de la fin du 19e siècle. Et que cette femme, qui est une couturière à la base, et qui, pour arrondir les fins de mois, va être modèle. Et que, sur cette expérience de vie, elle va devenir... grâce au dessin qui va être montré par le biais de Toulouse-Lautrec, avec qui elle a une aventure, vous le disiez, il y a cette grande butte Montmartre de la Bohème, où finalement tout circule, on vit à la Bohème, et d'une certaine manière, celle qui est aussi un modèle, qui est pas loin de la prostitution aussi, devient une femme dans ce milieu-là. Et je trouve que ce renversement d'une femme qui est une autodidacte, qui va vivre ensuite avec quelqu'un de plus jeune qu'elle, de 20 ans, André Hutter, à qui elle va apprendre la peinture de la fenêtre en disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire un paysage, monte, je te montre », et puis l'histoire d'amour commence, qui est lui-même plombier zingueur. Alors bien sûr, il ne faut pas retenir toutes les questions purement de la biographie d'une femme, mais c'est quand même important parce que la question du regard qu'on pose sur les nus féminins faits par des peintures qui sont des hommes, les peintres sont des hommes qui regardent des femmes, là c'est quand même à quoi s'adresse, quand on voit ces peintures... À quoi quoi s'adresse ce regard quand c'est une femme qui a su ce qu'était un modèle, qui peint des femmes. Mmh. Ça, déjà, je trouve que c'est absolument admirable que cette femme autodidacte qui a été emportée par ce regard de Degas, parce qu'elle a un dessin qui est quand même très affirmé.
Est-ce qu'on peut décrire un peu les dessins? Il y en a beaucoup, ils sont importants.
Les dessins sont très importants dans la mesure où finalement c'est quelque chose qui est très affirmé, la gravure aussi, enfin bon, tout le développement qu'elle a, c'est toujours des nus, c'est souvent des nus. Parce que son modèle préféré, c'est quand même son fils, qui va être le peintre Maurice Utrillo. C'est de la nudité avec souvent une femme habillée. C'est des tubes, les représentations qu'on a chez Degas, des femmes au bain, enfin dans les baignoires. Il y a cette intimité qui est présente déjà dans la peinture, mais qu'elle va, je dirais d'une certaine manière, démontrer avec un réalisme très fort, une présence très forte des corps. Et la première salle, d'ailleurs, fait écho à cette salle des gravures, des dessins, où on voit quelqu'un qui est là. Je veux dire, même les autoportraits, et cette chambre bleue que vous évoquiez, c'est aucun complexe et une affirmation du regard, son autoportrait est toujours en trois quarts, c'est-à-dire qu'elle a un corps qui est orienté à l'opposé de son regard. C'est une manière de dire, là où je regarde, c'est pas là où il y a mon corps. Mm-hmm. Et donc, c'est quelqu'un qui sait faire une différence. Moi, je trouve, c'est comme ça que je l'interprète et je peux me tromper, mais je trouve que la première salle est une manière qui présente une femme qui affirme. Et ses dessins sont vraiment une affirmation. Le cerne de la ligne, ça fait penser à du Gauguin. Cette manière du dessin intime, ça fait penser à du Degas. Et il y a des tas de motifs féminins, comme des nus, qui font penser à du Courbet, les baigneuses de Courbet. Il y a des choses qui sont magistrales quant à la capacité qu'elle a eue de voir les hommes qui l'ont précédée sur des motifs qu'elle reprend et qui sont les leurs, pour en faire la présence des femmes, dont je dirais qu'assez fréquemment, je laisse la parole à Sarah, elles ont le regard peut-être perdu, mais elles ont toujours un torse bombé, des seins qui sont là, qui vous dit, et comme dans la chambre bleue, j'ai ma clope au bec, j'ai mes livres à côté, et je vous tute.
Ouais. Ça arrive, il est meilleur.
Oui, j'aimerais peut-être, juste revenir un peu sur ce qu'on voit au fil des sections, qui, je trouve qu'elles ont tendance un peu à se confondre. C'est essentiellement, effectivement, comme vous le disiez, Corinne, des nus, des portraits, des autoportraits. Et ce qu'on voit, c'est ce que je disais en préambule, c'est une facture de synthèse entre Gauguin, Matisse et Cézanne, qui tient pour l'essentiel, comme vous l'avez dit, à cette ligne noire, qui en fait cerne des figures qui, elles, sont représentées en volume, avec elles sont comme maçonnées par des coups de pinceau assez visibles. Ah, si, je trouve qu'il y a un sacré relief des figures. Et les courbes de ces figures, donc cernées, elles se prolongent dans les motifs des tissus, ou dans les branches des arbres qui les entourent, ou dans des objets. Ce sont des décors qui peuvent présenter une forme de planéité. C'est comme un peu il y a peu de profondeur, en tout cas, spatiale. Donc c'est là un style, moi, je trouve, qui lui est propre, qu'on reconnaît, mais je trouve qu'il peut sembler, mais parfois un peu ornemental et décoratif, si on ne saisit pas, justement, la manière dont Suzanne Valadon va injecter à cette facture, comme vous le disiez, Corinne, un réalisme qui est lui hérité de Courbet, et qui lui permet, justement, comme vous le disiez, de revisiter des thèmes classiques de l'histoire de l'art, et de s'arracher, en fait, à un certain nombre de conventions artistiques et sociales de l'époque. Donc ce réalisme, il faut quand même préciser en quoi il consiste. Ça consiste à ne pas idéaliser ces modèles, qui sont donc pas représentés selon des canons de beauté classiques. Ils ne coïncident pas non plus, ces modèles, à des stéréotypes féminins, comme par exemple la déesse flamboyante ou la jeune nymphette. Ils sont au contraire représentés, comme vous le disiez, je crois, un peu, comme des individus, des corps singuliers, propres, avec dans toute leur masse, dans tout leur poids et la densité de leur chair. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on sent qu'il n'y a aucune recherche chez Suzanne Valadon de grâce ou de joliesse, et de la même manière, effectivement, que ces modèles semblent être là pour eux-mêmes, sans se disposer, en fait, pour un regard, du fait, effectivement, que d'une part, ces modèles peuvent être pris dans leurs activités, dans leurs pensées, mais aussi parfois qu'ils nous regardent frontalement et soutiennent notre regard. Si ça arrive quand même,
oui, je vous vois. Oui, souvent les portraits d'hommes, d'ailleurs.
Les portraits de femmes aussi.
Les portraits de femmes.
Mais en fait, c'est
sur le regard, justement.
Ouais, sur le regard. Et c'est là une modernité, justement, qui est propre, là, je trouve, à Valadon, et qui, à mon avis, ressort pas suffisamment du dispositif curatorial, je veux dire aussi bien dans les textes qui accompagnent les œuvres, que dans le choix choix des œuvres qui sont toujours les mêmes, peut-être que ça aurait été plus intéressant de mettre en comparaison, peut-être justement à Orsay, avec des tableaux de ses contemporains, non pas pour en faire des faire-valoir, mais pour voir, pour reproduire le choc, vous voyez, la singularité qui est celle
non,
de Valadon.
Non, mais j'entends ce que vous dites, Sarah, mais je pense qu'il y a... Marie ?
Allez-y.
non, mais je pense qu'il manque peut-être un certain nombre d'autres peintures de femmes de son époque, il y en a quelques-uns, et on voit bien la différence, et vive Valadon, hein.
Il y a Marie-Laurencin, notamment.
Non, mais Laurencin, oui, il y en a deux, je crois. On voit chez Valadon qu'il y a quelque chose que vous exprimez de cette présence forte des corps. Il y a une présence qui est inouïe et qui n'est pas du tout représentative de ce qu'on peut voir chez d'autres artistes qui sont exposés en termes de femmes, dont j'ai oublié le nom. Pour moi, c'est un peu Artemisia Gentileschi, Valadon, ouais. Mais moderne. C'est-à-dire, elle a tout à fait incorporé les motifs, mais aussi les manières de représenter les scènes telles que on les trouve chez Gentileschi sur les motifs sacrés, la Bible, etc. Mais là, de la modernité, c'est-à-dire le rapport vraiment de corps à femme. Moi, je trouve que vraiment, je suis d'accord avec vous que peut-être il pouvait y avoir des éléments beaucoup plus comparatifs, mais à Orsay.
Ouais.
Là, on est à Pompidou et on veut faire apparaître une femme. C'est dans l'air du temps. Il faut nous parler du regard des femmes qu'on a oubliées.
Il y a comme Cézanne et Degas dans l'exposition.
Oui, non, mais bien sûr. La première partie, c'est Valadon et les peintres hommes.
Je voudrais revenir sur le regard. Qu'est-ce qu'il a de spécial, de particulier, le regard de Valadon en tant que femme sur des modèles femmes.
Peut-être que justement, si on revient là, c'est un sujet, une notion d'actualité qui est le male gaze. Donc ça tient justement en fait à dégager ces modèles féminins. Des stéréotypes de genre qui sont construits par et pour un regard masculin. Ça, c'est certain. Et par ailleurs, je pense que, cela dit, je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est que c'est pas parce qu'elle libère, en fait, ses modèles et elle-même, d'un certain nombre de normes et de conventions de genre qu'il n'y a pas pour autant d'érotisme dans sa peinture. Au contraire, c'est vrai qu'on voit beaucoup de nus féminins qui sont étendus sur des lits, sur des canapés. Nus, quand même, pour beaucoup. Parce que vous dites habillés, mais bon, moi, je les souvent trouvé nus, me semble-t-il. Elles ont des formes...
C'était sur les dessins.
Elles ont des formes plutôt opulentes, qui sont largement mises en valeur par Valadon. Mais la différence, justement, avec ces homologues masculins, c'est que ces modèles ne sont pas idéalisés. Ce sont des corps propres, singuliers. Et donc, avec leurs plis, leur grosseur, ils peuvent être affalés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils s'offrent au regard sans pour autant complètement s'y fondre. Ils présentent, en fait, une forme de résistance, ces modèles, du fait justement en fait qu'elles sont prises soit dans leurs pensées, elles sont songeuses, ou alors et parfois, comme je le disais, elles soutiennent notre regard. Et c'est précisément, je crois, ce qui fait en fait l'érotisme de ces peintures, c'est qu'il s'agit de corps qui se présentent à la fois comme des objets, ça serait le male gaze, mais aussi comme des objets du regard, je dirais, mais qui en même temps s'y soustraient et se constituent de fait comme sujet. Et c'est cette que leur désirabilité ou leur érotisme, il tient justement à cette résistance. Ils sont là pour eux-mêmes, plus que pour nous, en fait, ces modèles. Et ça, c'est peut-être un regard peut-être plus féminin que masculin.
Corinne Rondeau ?
Oui, bon, en tout cas, moi, je dirais que c'est le regard d'une femme dont le prénom est Marie-Clémentine et qui a accepté par Toulouse-Lautrec de s'appeler Suzanne. Vous savez que dans la Bible, c'est celle qui dit non. Même si on lui dit, c'est de ta faute et accusée de à tort. Et je trouve que si elle prend déjà ce prénom de Suzanne donné par un peintre et que c'est un registre vraiment de celle qui dit non, cette femme dit non. Et c'est pour la raison pour laquelle il n'y a pas d'idéalisation dans ces nus, parce que moi, l'après-coup, c'est, je n'ai jamais vu une exposition où il y a autant de nus féminin, mais par contre il y a des spécificités qu'on ne trouve chez aucune femme peintre de son époque. Premièrement, je pense que, est-ce que vous avez déjà vu des tableaux où il y a autant de jeunes filles à côté d'une adulte avec un miroir? Ce miroir qui sert à regarder peut-être un corps, un visage. Il y a pour moi comme une allégorie, il y avait des allégories du temps, la jeunesse, le temps adulte et le vieillard. Là, il y a une sorte d'allégorie du temps, du développement et de l'éclosion de la femme. De l'adulte, de l'enfant à l'adulte, à la femme plus âgée. Il y a un tableau de famille où vous vous avez Utrio, elle et sa mère, et elle a la main sur la poitrine comme ça, et qui tient tout ce monde-là, et c'est la seule à regarder en face. Et je vous invite quand même à regarder tous les portraits, vous verrez que les femmes ne regardent pas tant que ça le spectateur. D'ailleurs, même il y a un regard asymétrique un peu à la Manet. Et par ailleurs, il y a des choses absolument admirables, c'est que cette allégorie du temps, qui est aussi l'évolution du corps de la femme, cette femme qui va se montrer avec ses bombes, je veux dire, à 66 ans, elle fait un autoportrait au sein nu, et là... Ouais. Je veux dire, les deux faces comme ça, en disant « j'ai un corps ». Et alors, c'est ce qui est absolument admirable. Non seulement ces tableaux de jeunes filles au miroir qui font passer parfois à du Balthus, avec, je dirais, toute la qualité d'une peinture un peu dérangeante. Et puis, par ailleurs, moi, ce qui m'a saisi aussi, c'est cette Vénus noire de 1919. Mmh. Cette femme a regardé Manet, l'Olympia de Manet. Vous savez, l'Olympia de Manet, vous avez le modèle blanc. Cette main sur le pubis qui regarde directement le spectateur en disant « j'enlèverai la main si tu veux ». Et la servante noire au bout du lit. Et ben là,
elle a pris un
modèle noir, et elle a mis la main à peu près comme celle de Manet, et elle donne une présence à un corps, je dirais, de femme qui n'est pas un sujet principal dans la peinture, pour le mettre en pied, et qui dit quelque chose de cette liberté, de cette présence, de cette frontalité, et je dirais de cette force. Et lorsqu'on voit les tableaux de nu de l'Odalisque de Jacqueline Marval, où la femme endormie, qui est d'une monstruosité masculine, je dors, mais allez-y, quoi, faites ce que vous voulez de moi, Angèle de la salle. Je me dis qu'effectivement, entre ça et le lancement de filet à la fin, où il y a un plaisir, et l'Adam et Ève, un plaisir des hommes.
Justement, faudra aller le voir, on va dire
ouais,
ça.
Ouais,
d'accord,
aller le voir.
Alors, il y a le temps, c'est jusqu'au 30 juin 2025, et c'est au Centre Pompidou, commissariat Nathalie Ernoux, Chiara Parisi, Xavier Ré, scénographie, Isabelle Raimondo.
Certes, c'est un tableau, mais avant tout, c'est un trompe-l'œil. Or, les trompe-l'œil, pour bien des gens, ne sont pas considérés comme de la peinture. Et parce qu'ils sont destinés à tromper, ils ne sont pas pris au sérieux, alors que certains d'entre eux sont pourtant des chefs-d'œuvre.
Sacha Guitry, fan du trompe-l'œil, rivaliser avec la réalité, voire faire mieux, c'est l'ambition de ce genre pictural. Une exposition au musée Marmottan Monet est entièrement consacrée à cet art dit mineur, pratiqué dès l'Antiquité. Pline l'Ancien relate l'exploit du peintre Zeuxis qui aurait figuré des raisins si réalistes que les oiseaux auraient voulu se poser sur la toile en 81 œuvres. Cette exposition voyage du 15e siècle à nos jours, où le trompe-l'œil obéit longtemps à des règles strictes, nature morte, objet du quotidien, avant d'investir les arts décoratifs et même l'architecture. On commence avec un avis de l'une et de l'autre, Sarah Hilarmeya.
C'est une exposition que j'ai beaucoup appréciée. Corinne vient de me faire comprendre que ce n'était pas son cas. Mais alors c'est vrai qu'elle est inégale dans ses dernières parties qui sont consacrées au XXe et au XXIe siècle. Elle est aussi un peu répétitive, même beaucoup dans les œuvres qu'elle montre à nouveau. Cela dit, je crois que cette répétition, elle a un intérêt parce qu'elle coïncide en fait avec le plaisir répété qu'on a à regarder plusieurs fois le même tableau, à être trompé et détrompé par ce qu'on voit. Et c'est un plaisir que je trouve en fait assez mystérieux, moi, ça qui a retenu mon attention, qui, à mon avis, ce plaisir ne se résume pas au fait d'observer la virtuosité des peintres. Il y a peut-être un ressort plus profond hein, dans ces effets de surface, plus existentiel, je dirais, mais dont ne parlent pas, c'est vrai, les commissaires. Voilà.
Corinne Rondeau.
Écoutez, s'il faut aller très vite, je dirais, je connaissais le vide-grenier, maintenant je connais le vide-musée.
Alors, Sarah, un plaisir mystérieux, avez-vous dit.
Ouais, un plaisir mystérieux, mais alors, d'abord, peut-être que je précise un peu de comment se présente l'exposition. Donc, elle est organisée de manière chronologique, depuis comme vous le disiez, du 16e, 17e jusqu'au 21e siècle. Et ce qu'on voit, c'est que dès le 17e siècle, s'élabore un répertoire de peintures en trompe-l'œil. Donc, c'est des peintures au réalisme illusionniste. Qui en fait va ensuite ce répertoire inlassablement être répété, se décliner, être augmenté jusque en fait à la fin du 19e siècle. Donc ce sont plus souvent des représentations d'objets ou de documents qui sont situés dans des espaces peu profonds, souvent sombres. Ou alors, ces objets, ils semblent être maintenus par de fausses lanières, de fausses punaises sur de fausses planches de bois. C'est ce qu'on appelle des porte-documents ou des colibés. Et donc, ces objets sont toujours peints en fait à échelle réelle. Ils ne sont jamais coupés par les bords du tableau. Donc, Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des représentations en fait qui cherchent à se faire oublier comme telles et à se faire passer pour les choses mêmes qu'elles représentent. Mais simultanément, ces trompe-l'œil doivent être perçus comme telles, hein, comme des illusions d'optique, pour se constituer en œuvre d'art et pour ne pas passer inaperçues. Et donc, effectivement, ce qui est assez étrange avec ces œuvres, c'est que le plaisir qu'elles suscitent tient dans le fait de successivement se tromper puis se détromper. Moi, je trouve qu'on ne cesse d'y revenir, alors même que l'on sait que c'est faux. Et que là où l'on croyait qu'il y avait quelque chose, en fait, il n'y a rien, il y a du vide, il y a une absence. Et je crois que si on ne cesse de regarder ces toiles, c'est moins, comme je disais, pour apprécier la virtuosité des artistes, que pour éprouver alors, quelque chose de plus vertigineux, qui est justement ce vide ou ce fond d'infigurabilité depuis lequel émerge toute représentation, aussi bien mentale que picturale. Et donc, je crois que le plaisir qu'on éprouve, parce que c'est pas angoissant en fait, hein, c'est le processus même de la représentation mentale, visuelle, qui donne forme à l'informe et qui constitue en fait ce qu'on appelle nous réalité. Voilà.
Corinne Rondeau.
C'est passé. Bon, c'est un anniversaire, c'est les 90 ans de Marmottan, 80 heures. On fait les fonds de placard, mais moi j'ai trouvé que effectivement vous avez prononcé un mot qui est répétition. Je trouve qu'il y a une répétition qui se décline sur un certain nombre de le trompe-l'œil, sur tout ce que vous voulez. Donc la peinture, on a les raisins qui rappellent Xeuxis, des oiseaux qui auraient été trompés par la peinture de Xeuxis. Donc il y a ce motif, voilà, qui revient. On a les vanités. On a les arts déco, comme vous avez dit. On a la grisaille, qui est quand même la partie la plus intéressante, j'ai trouvé, pour faire apparaître du relief.
Mais Corinne, c'est le trompe-l'œil que vous n'aimez pas ou c'est l'expo ?
Non, c'est l'expo. C'est l'expo, parce que je pense qu'effectivement, la question du trompe-l'œil relève de, non pas de la peinture et de l'art pictural, puisque la question de la peinture en tant que telle, c'est quand même comment on dépasse le visible. Autrement, il n'y a pas de peinture sans recherche de l'invisible. La perspective en est la preuve évidente. Il n'y a pas d'infini sans le fini, donc on va au-delà du cadre. La peinture, c'est quand même, évidemment, quand vous énoncez le terme de détromper, c'est une manière de dire le trompe-l'œil me trompe, donc en fait je suis dans la confusion des sens, de la perception, c'est plutôt la main qui va se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc je trouve qu'on est vraiment dans une exposition spectacle qui fait un certain nombre de répétitions sur suis-je trompé. Alors évidemment, tout est anecdotique, les gens qui disent oh, regarde ces billets, on pourrait presque les prendre, on se dit bah tiens, évidemment, on ne s'arrête pas sur l'oiseau, mais sur des billets. Il y a peut-être quelque chose du contemporain qui surgit dans l'observation des spectateurs. Je trouve que c'est vraiment une exposition, pour moi, tout à fait réactionnaire. D'ailleurs, quand quand on expose, par exemple, Henri Cadieu, qui est le peintre dans les années 70, un peu dans le courant, enfin l'époque des nouveaux réalistes français qui créent ce mouvement trompe-l'œil réalité, qui pastiche de manière extrêmement brutale. Moi, je l'ai pris comme une violence Fontana qui entailler ses toiles, qui crevaient pour produire un espace à l'arrière du tableau à partir de ses fentes. Il est peint en trompe-l'œil avec des lames de rasoir à côté. Je veux dire, il faut lire quand même Cadieu pour voir que c'est un réactionnaire. Autrement dit, c'est très bien de faire une exposition sur le trompe-l'œil. J'y suis favorable. Mais quand en fait on ne fait pas un vrai travail d'historien et qu'on prend les spectateurs pour des imbéciles et qu'on est dans le plaisir de la répétition, encore un trompe-l'œil, tu as vu, encore ça change avec le temps, etc. On met un pistoletto, etc., etc. J'ai l'impression qu'effectivement, on est simplement pris dans un contexte actuel qui consiste à dire regardez les images et surtout prenez la peinture aussi pour une image. Je suis désolée de dire qu'il y a une histoire de la peinture, ça s'appelle l'histoire de l'art, et je pense qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi, y compris les cartels à partir de Cadieu qui sont, je dirais, très largement inférieurs à l'aspect réactionnaire qu'il a pu faire, notamment sur le Fontana et sur d'autres.
Alors oui, non, mais moi je suis tout à fait... Je disais justement que c'était une exposition qui était inégale, en particulier pour les 20e et 21e siècle, et c'est vrai qu'on y voit ces peintures de ce courant qui a été complètement oublié dans les années, enfin qui dans les années 60, trompe-l'œil réalité avec des toiles, enfin effectivement qui se relèvent de la croûte, hein, pour le coup, notamment cette peinture illusionniste de la Joconde emballée dans du papier. Alors je sais pas si c'est Cadieu
déchiré,
un autre,
mais la déchirure.
Et oui, franchement, ça a pas beaucoup d'intérêt, je trouve ça. Et c'est vrai que ces artistes-là font du trompe-l'œil justement un genre réactionnaire et conservateur. Ça, c'est un problème. C'est pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là-dessus, là-dessus, Corinne. Ce qu'on voit pas, d'ailleurs, par exemple, bon, ce sont les cubistes qui sont évidemment antérieurs à ces artistes de trompe-l'œil réalité, mais qui imitaient, par exemple, du faux-bois. Alors, non pas pour dire, ah, la représentation classique, c'est bien, et il faut l'opposer, en fait, aux avant-gardes, puisque quand les cubistes font ça, c'est justement pour interroger nos systèmes de vision et de représentation, ce qui en fait, justement, un courant d'avant-garde. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi, mais donc, on est d'accord, hein, Corinne, là-dessus, je trouve que, par ailleurs, il y a des manques assez regrettable. Alors ça tient peut-être à des questions de prêt possible ou pas. Je pense à l'hyper-réalisme américain avec par
manque.
Exemple bah qui manque cruellement donc je, notamment les sculptures bah par exemple de Dwayne Hudson hein, évidemment qui reproduisent de manière donc extrêmement réaliste des figures américaines un peu type à savoir la ménagère obèse qui pousse son caddie une femme noire
mais ça reste du trompe-l'œil ça
bah c'est un trompe-l'œil parce que en fait ça se fait passer pour ce que ça n'est pas c'est-à-dire que là où on croit voir quelque chose en fait il y a rien y a enfin comment dire c'est du silicone en fait qui reproduit à l'identique une figure humaine et ça c'est des sortes de trompe-l'œil, mais qui perturbe la représentation, du moins la manière dont les États-Unis veulent se représenter eux-mêmes et aux autres, mais pas pour contrairement au trompe-l'œil classique qui nous fait basculer du côté du vide, là ça nous fait basculer du côté l'hyper-réalisme américain, du côté d'un réel en excès en fait sur la représentation, ou du moins un réel qu'on veut pas se figurer, qu'on veut pas se représenter et qui est placé hors scène quoi, qui est placé hors champ. Et ça aurait été intéressant parce que c'est une en fait comment
ils
dire
ils ont tenté.
Oui, ils ont tenté avec Firmin, qui est pas bon. C'est pas à mon avis.
C'est une sculpture. C'est un trompe-l'œil. C'est une sculpture de femme dans un coin, les bras levés, qu'on voit habillée comme si c'était une jeune adolescente, on va dire quelque chose comme ça. Donc on passe au volume vraiment dans l'espace. Mais si vous voulez, moi je suis un peu en colère. Je veux dire, je peux avoir du plaisir. Les hommes de la Renaissance avaient déjà plaisir à être trompés par les trompe-l'œil. C'est-à-dire, c'est un personnage au fond de la galerie. Non, c'est une image. Parce que c'est toute la question du trompe-l'œil, c'est une question de distance. Et le trompe-l'œil en peinture supprime la distance par laquelle je suis face à une représentation ou je suis face à une présence. Le trompe-l'œil, c'est vraiment nous donner sans distance absolue cette présence, cette présomption de la réalité. Alors ça, c'est un jeu, c'est un plaisir et dès la Renaissance, on joue avec ça. Mais quand on est en 2025 où on est accumulé. Enfin, on est acculé par des accumulations d'images qui ne savent plus ce qu'elles sont, où les gens ne savent plus regarder, et qu'on ne fait pas un travail sérieux, historique, pour passer de 1520 à aujourd'hui, je trouve que c'est scandaleux. Alors, je suis en colère, mais il faut prendre les mots simplement pour des mots. Mais quand on finit sur le... Parce qu'en fait, cette exposition, c'est une déclinaison du mot tromper, puisqu'on va jusqu'au camouflage, sachant que le camouflage, c'est quand même une représentation qui ne doit pas être vue. Donc, en fait, on est dans la contresens absolu du trompe-l'œil, puisque le camouflage, c'est un camouflage militaire.
Un dernier mot,
sur ce que produit, sur ce que fait le trompe-l'œil, c'est quand même ce qu'il faut dire, et je vous rejoins sur ce que vous disiez juste un peu avant, c'est un retournement en fait des techniques de la représentation classique. Les techniques de représentation classique, elles permettent normalement de se saisir du monde, des apparences, de disposer le monde devant soi comme un ensemble d'objets finalement à disposition. Là où le trompe-l'œil, lui, ce qu'il produit avec les mêmes techniques, c'est plutôt une forme de déprise, c'est-à-dire qu'on ne se saisit pas des choses qui sont face à nous, elle se saisit de notre regard, elle nous trompe et elle nous échappe. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vient interroger justement notre...
Ce qui n'est pas dans
l'arrêté de nos représentations et ça rejoint Descartes,
le contemporain. Chers amis, vous allez continuer à discuter ensemble. Le trompe-l'œil, c'est jusqu'au 2 mars au musée Marmottan.